Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge. Nous allons passer une heure ensemble dans notre bulle d'optimisme. On va découvrir des femmes, des hommes qui ont l'audace d'entreprendre. Et même quand c'est impossible, La France bouge, c'est possible. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous.
Chef du service économie d'Europe 1, aujourd'hui on va parler art de la table.
Oui, et pour cela on a bien évidemment invité le plus gros verrier de France, c'est Arc International. Vous connaissez peut-être Cristal d'Arc, Luminar, qui est chef et sommelier, ce sont eux. Alors tiens, comment vont-ils? Quelles sont les tendances de ce marché? Profitent-ils de cette envie en ce moment de se faire plaisir? On parle de tout cela jusqu'à 14h avec la vice-présidente d'Arc International.
À la une, en effet, le marché des arts de la table qui innove avec des couleurs, des motifs inattendus qui donnent de la gaieté à vos tables. C'est Vaisselle, une entreprise née il y a un peu plus de 2 ans. Ce sont des assiettes artisanales. Un véritable univers à découvrir dans un instant avec la cofondatrice de Vaisselle.
Alors, si je vous suis bien, Elisabeth, on a les verres, on a les assiettes. Il nous manque quoi? Les couverts. Sabre, né en 1993, est le résultat d'une sorte de coup de chance répété. Son fondateur va venir nous raconter tout cela. Sabre, ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Les trophées Europe 1 de l'avenir, la France bouge avec notre partenaire la CCI. Nous avons choisi Belaya. Ce sont des bougies parfumées, éco-responsables et rechargeables. Le pitch va-t-il vous convaincre? Réponse 13h45.
Et puis en fin d'émission, demain un emploi. On a quoi tiens aujourd'hui dans notre besace? On a 50 postes dans la téléphonie. Mais où ça concrètement? On vous dit tout en fin d'émission.
Allez, bienvenue dans la France bouge. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Allez, aujourd'hui, une fois de plus, on va se faire plaisir dans cette France bouge. On va parler art de la table avec l'un des plus grands verriers français, on pourrait même dire l'un des plus grands verriers du monde.
Ah bonjour Gwenaëlle Lénoré.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous, vous êtes la vice-présidente d'Arc International. Arc International va bientôt fêter ses 200 ans. Vous êtes née en 1825, vous avez des marques connues comme Luminarc, Arc Opal, Cristal d'Arc Paris, Arc Rock ou encore Chef et Sommelier. Vous élaborez aussi des produits pour les marques de distributeurs. 7500 salariés, dont 4500 à Arc dans les Hauts-de-France, ce qui fait de vous, Gwenaëlle Lénoré, le deuxième employeur privé des Hauts-de-France. Alors première question, ça va comment en ce moment? Ça va bien?
Alors écoutez, les arts de la table ont pu bénéficier de cette période de Covid, puisqu'on s'est rendu compte pendant le Covid que les gens avaient envie de préparer des repas, avaient envie de cuisiner, avaient envie de se faire plaisir, de faire plaisir à leurs proches. Et donc on a vu un vrai engouement pour la cuisine, donc notamment tout ce qui est plats culinaires. Donc nous, on a toute une collection de plats culinaires pour laquelle on a fait une croissance magnifique en 2 ans de 140%.
140%
en 2 ans.
C'est quoi les plats culinaires, par exemple?
Ce sont les plats que vous allez mettre au four, vous préparez votre plat, vous allez le faire cuire, et puis ensuite, vous allez pouvoir le servir directement à table. Donc, ce sont des plats.
Un plat à gratin, par exemple.
Voilà, mais on a travaillé, par exemple, sur un nouveau matériau, un opale culinaire qui nous permet d'être 30% plus léger et à la fois 3 fois plus résistant, par exemple, que des plats en céramique.
Mais ça continue encore, cette demande Absolument. Très forte qu'on a pu effectivement connaître pendant le confinement?
Absolument. On voit qu'en fait, ça continue et qu'aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude de plus cuisiner. Donc, on le voit, par exemple, sur les plats, mais on le voit aussi sur toute la catégorie des boîtes, les boîtes de conservation en verre, qui ont aujourd'hui le vent en poupe, face aussi à toutes les problématiques que pose le plastique, et notamment le plastique jetable. On a une vraie appétence pour des produits en verre et les gens aiment préparer. Alors, il y a eu toute la tendance du batch cooking dont on a beaucoup parlé.
Oui, préparer en avance,
conserver au congélateur et puis ensuite réchauffer ou emporter au bureau, emporter à l'université ou ailleurs.
Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par cette demande en plein milieu de ces confinements, au point que je crois que c'était une demande historique? Il y a eu un moment où vous n'aviez jamais eu un carnet de commandes comme ce qui vous est arrivé sur les bras.
Exactement, puisqu'en fait, cette crise du Covid, elle a été par vague. Et effectivement, en début d'année 2021, le démarrage était encore un peu compliqué. On avait toute la clientèle des restaurants, des bars qui étaient encore fermés en début d'année, si on se souvient. Et puis, tout a redémarré à partir du mois de mai-juin. Et là, on a été vraiment submergé par un afflux de commandes très rapide.
Alors aujourd'hui, vous dites que ça perdure. Qu'est-ce qui marche le plus? Donc, c'est ces plats culinaires. Ça continue.
Exactement.
Aussi. Est-ce qu'il y a eu d'autres tendances qui
exactement.
Ont émergé depuis?
Alors, dans les autres innovations qui ont très, très bien fonctionné pendant la crise, en fait, on a développé depuis plusieurs années maintenant, des assiettes en couleur dans la masse, en verre de couleur dans la masse, qui sont extrêmement résistantes, extrêmement durables, qui permettent d'avoir des couleurs inaltérables et sur lesquelles on a fait également une croissance très forte de 60% sur 2 ans. Donc ça, ça a été aussi un autre succès qu'on a pu observer.
Parce que vous êtes porté par plusieurs choses. Vous êtes porté par le Covid, là on l'entend. Et donc j'imagine le fait qu'on reçoit peut-être un peu plus à la maison, on a peut-être un peu plus peur d'aller à l'extérieur. On redécouvre le plaisir de se faire une belle table. Pendant le Covid, on s'est peut-être dit, oh là là, les assiettes de la grand-mère, là c'est bon, on va changer tout cela. Est-ce qu'il y a aussi le côté que... aujourd'hui, ouais, on a envie de se faire plaisir, tout simplement.
Tout simplement. On a envie de se faire plaisir, on a envie aussi de déguster. Par exemple, on a toute une catégorie de verres à dégustation sous notre marque Chef et Sommelier. Et donc, on a introduit un matériau il y a quelques années qui est un cristal renforcé, extrêmement résistant, qu'on appelle Crista, et qui nous permet là aussi d'être aujourd'hui à un chiffre d'affaires supérieur à 2019. C'est-à-dire que non seulement on a rattrapé l'impact de la crise, mais on a même dépassé. Et aujourd'hui, Chef et Sommelier propose des verres à dégustation, des verres à champagne, des verres à cocktail, qui vont suivre toutes ces tendances autour d'avoir le... L'idée, c'est d'avoir le bon verre pour le bon type de vin ou le bon type de cocktail. Donc ça aussi, c'est une tendance très forte.
Gwenaëlle Lénoré, donc vous bénéficiez de la crise sanitaire, très clairement, on vous l'entend. Vous bénéficiez aussi des émissions culinaires à la télé, parce que chaque chaîne a son émission, sa pastille culinaire.
Alors c'est clair, et puis évidemment toute l'explosion des réseaux sociaux autour de toutes ces thématiques, des recettes, des nouvelles façons de cuisiner, mais aussi de présenter sa table à la maison. C'est aussi comment être créatif. Voilà, on n'a pas forcément envie d'acheter X service ou X, mais en revanche ce qu'on aime c'est faire changer sa table, faire évoluer sa table en fonction des occasions, en fonction des invités. Donc on a aussi bénéficié de cette idée. Je prépare, mais aussi je présente de manière élégante pour me faire plaisir et pour faire plaisir à mes invités.
Vous parlez des réseaux sociaux, ça signifie que vous aussi, vous avez mis un coup d'accélérateur parce qu'il faut être présent quand on est une marque comme la vôtre. Vous êtes présent sur Instagram parce que le nombre de comptes où on voit chaque jour des plats bien présentés, vous aussi, vous avez dû mettre un booster là-dessus.
Absolument. En fait, nous avons beaucoup travaillé avec notamment sous nos marques Luminarc, mais également nos autres marques, sur tout le travail avec des influenceurs, des partenariats avec des influenceurs, des influenceuses, sur tout ce qui est mise en table, mise en avant des produits. Mais il y a également un autre élément qui a vraiment émergé pendant la crise, c'est le verre comme matériau. Et en fait, je voudrais insister là-dessus, parce qu'on a vraiment
parce que c'est un peu contre-intuitif, parce que maintenant, le plastique recyclé reprend quand même. Je pense notamment à une marque comme Tropicana, qui avait abandonné le verre pour revenir au plastique recyclé. Bah, pour venir au plastique recyclé, vous, ce que vous dites, c'est que le verre, c'est peut-être l'un des éléments les plus durables et les plus écologiques.
Alors, c'est un matériau qui est sain, qui est non poreux, qui ne pose pas de problème de migration, ce qu'on peut observer sur les plastiques. On a toujours ce sujet sur la migration, sur les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est un matériau qui est aussi bon pour la santé, qui est recyclable à l'infini et qui, aujourd'hui, a le vent en poupe. Donc, on fait tout un travail, par exemple, pour l'alléger tout en le rendant encore plus résistant. Mais nous, on voit sur la restauration comme chez soi, les gens, aujourd'hui, sont très attentifs aux problèmes, à toute la problématique sur le plastique, notamment quand vous le réchauffez au micro-ondes, etc. Et il y a une vraie demande pour le matériau vert, que ce soit pour la vente à emporter, la restauration. Et on travaille beaucoup sur le sujet du réemploi, avec des start-up du réemploi, pour les restaurateurs qui veulent arrêter le plastique. Et puis, nous avons également une réglementation qui aujourd'hui, qui va vraiment dans le sens de la disparition de l'emballage
porte,
à usage unique.
Quand on vous entend, Gwenaëlle Lénoré, mais tout vous porte en ce moment, la crise sanitaire, les réseaux sociaux,
les émissions de cuisine, les
restaurateurs.
Les émissions
de cuisine, plus l'environnement.
J'ai même lu, en plus, en préparant cette interview avec Elisabeth, on a lu que vous avez aussi bénéficié, et c'est contre-intuitif, les restaurateurs qui ont ouvert des terrasses en plus grand nombre ont souvent une vaisselle différente à l'extérieur par rapport à l'intérieur, et j'ai vu que plutôt, ils misent sur le verre des choses un peu moins fragiles pour l'extérieur. Ça aussi, c'est vrai? Ça vous apportait aussi?
Tout à fait. Effectivement, pour les terrasses, alors on a eu aussi toutes les règles Covid qui ont en fait poussé les restaurateurs à équiper leurs terrasses, à agrandir leurs terrasses. On a vu à Paris toutes ces terrasses fleurir pendant tout l'été et qui ont même un peu perduré à l'automne. Bien entendu, ce n'est pas forcément le même équipement qu'en salle. Et ça, bien sûr, c'est une opportunité pour les fournisseurs et notamment pour Arc.
Tout va bien pour Arc International, c'est ce que vous nous dites, Gwenaëlle Lénoré, vous êtes la vice-présidente d'Arc International et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On est ravis, comme chaque jour avec Elisabeth, de vous accueillir peut-être encore plus que d'habitude. On aurait pu mettre les verres et les assiettes aujourd'hui,
mais oui,
Elisabeth.
En plus, on peut le dire, c'est votre passion, Emmanuel.
Ouais, celle de ma maman à qui je fais un petit coucou. On adore ça, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà qu'on parle art de la table aujourd'hui avec Gwenaëlle Lénoré, la vice-présidente d'Arc International.
Et les idées sont inépuisables dans ce secteur des arts de la table. C'est peut-être ce qui vous a inspiré, Déborah Reiner. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Vaisselle. Vaisselle, ça s'écrit
V-E-2-S-E-L.
Pourquoi vous l'avez changé, vous n'avez pas mis VAI, 2SE
Par rapport au dépôt du nom, par rapport à plein de choses. Et puis on trouvait ça, voilà.
Il y a c'est joli.
Second degré qui était un peu plus intéressant.
Donc Vaisselle, c'est quoi? C'est une marque de vaisselle que vous avez créée fin 2019 avec votre amie Ornella. Pourquoi? Parce que vous aimez recevoir, vous aimez les belles tables. Hein, et vous étiez parti en vacances au Portugal, vous avez fait un peu de shopping et vous avez ramené de la vaisselle à votre amie Ornella. Et là, ça a été une forme de déclic?
Une révélation,
réellement.
Ouais, parce qu'en fait, c'est la première année où je ne partais pas en vacances avec Ornella. On a des enfants du même âge et cette année-là, elle a eu ses jumeaux. Du coup, je lui ai ramené de la vaisselle en cadeau parce que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai savoir-faire artisanal, travail de la céramique au Portugal. Donc, je m'en suis ramenée moi-même beaucoup. Je lui en ai ramené et au moment de faire ma valise, j'ai eu un déclic et puis je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute, dès que je rentre, il faut qu'on se parle. On est rentrée, elle était en reconversion professionnelle, elle était devenue architecte d'intérieur, donc ça faisait aussi sens par rapport à...
Par rapport à sa future activité.
À sa future activité.
Mais le déclic, c'est quoi? C'est je te rapporte 4 assiettes et on va se faire un dîner? Ou si on va vraiment monter une boîte?
On ne permet pas la valise, hein, donc il y en avait plus que 4.
Non, la valise, ce que je ne vous dis pas, c'est que mon mari a fait tomber ma valise, donc il me restait que ces 4 assiettes à elle. Ah. Voilà, moi, toute la vaisselle que j'ai ramenée...
vaisselle cassable, on peut le dire.
Bah, oui, non, mais c'était pas que ma vaisselle. Et du coup, en rentrant, je lui ai dit, voilà, ce serait bien qu'on ait ce projet-là. Est-ce que tu veux qu'on reparte toutes les deux? On est reparti et on a découvert...
Et avec un concept, parce que c'est ça qui est passionnant dans votre aventure, c'est que ce n'est pas une marque de plus et c'est ça ce qui nous a plu. Typiquement, on est sur de la vaisselle quasi artisanale. Il y a certes des moules, mais tout est fini à la main, tout est fait à la main.
Alors, elle est 100% artisanale.
Voilà, c'est ça.
C'est uniquement, c'est vraiment de l'artisanale.
Donc, elle est unique. Chaque pièce est unique.
Exactement. C'est de la vaisselle artisanale. Chaque pièce est faite à la main. Il faut compter 15 jours pour faire n'importe quelle pièce de notre collection, que ce soit un ramequin ou une assiette, parce que voilà, il y a un temps compressible pour le séchage, pour la vitrification, pour...
Alors, ce qui nous a plu aussi avec Emmanuel, c'est qu'au-delà du fait que c'est singulier, c'est de la vaisselle unique, artisanale, l'autre nouveauté, c'est la couleur. Vous mettez des couleurs, moi je trouve assez inattendues, parce que c'est pas des verts que l'on retrouve partout, oui. C'est pas des roses que l'on retrouve partout, même le blanc, il est un peu...
Il est crêpe, on l'appelle
voilà.
Crêpe d'ailleurs.
C'est un blanc particulier. Qu'est-ce que vous voulez raconter comme histoire? Ça veut dire quoi?
Alors, en fait, d'ailleurs, c'est ce qui nous a attiré, nous, chez l'artisan avec qui on a choisi de collaborer. C'était sa palette de couleurs qui était assez unique. Déjà, ce qui fait que nos pièces sont uniques, au-delà de la couleur, si je peux me permettre, ce sont les dentelles. Parce que dans notre vaisselle est vraiment travaillée en faux uni. Elle est travaillée en faux uni. Donc, même si elle est pleine de couleurs, ce ne sera jamais trop chargé. Parce qu'elle reste assez...
Elle est délicate.
Et on y appose des napperons vintage qu'on a chinés à l'intérieur de la céramique. Mmh. Et donc, tous les motifs que vous voyez sont des napperons qu'on a chinés. Alors, d'abord au Portugal, et puis maintenant, on en chine assez régulièrement dès qu'on fait une brocante.
Alors, vous fabriquez toujours au Portugal, chez cet artisan que vous avez
dans
trouvé?
Dans notre fabrique. Aujourd'hui, voilà. C'est devenu notre propre fabrique.
Vous l'avez acheté?
Oui, bon, en fait, on s'est plus ou moins associé avec...
Mais ce qui est la belle histoire, je crois que votre artisan devait partir à la retraite. Et du coup, il a rapatrié
la famille.
Exactement. C'est ça l'histoire?
Oui, réellement. En fait, il était tout seul. On a commencé il y a 2 ans, donc en décembre 2019. Il était seul. Il faisait ça par passion, en plus de son activité, parce qu'il était professeur de psychologie. Et il pratiquait la céramique le week-end, dès qu'il avait du temps libre.
Mais ils arrivent à suivre la demande?
Là, il arrive à suivre. On aimerait bien que ça suive encore plus. Donc, je pense qu'avec la jeune génération qui vient d'arriver, ça va être plus simple.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites vivre une famille, vous avez créé des emplois?
Tout à fait. Voilà, ils sont 4 aujourd'hui là-bas. On fait vivre une famille, on l'espère. Et puis, je pense qu'ils y croient aussi, parce que sinon, il n'aurait pas fait venir son fils.
Alors là, ceux qui nous écoutent à la maison ou en voiture, ils se disent c'est bien gentil, c'est fait à la main, c'est des couleurs, nanana.
Non, le prix, évidemment, comment ça coûte?
On n'a plus de sous pour mettre quelque chose dedans parce que ça coûte trop cher. Vous présentez comme une marque de luxe accessible,
oui.
Ça veut dire quoi en termes de prix?
En termes de prix, alors nos assiettes sont à partir de 11 euros. 11 euros, ça va être une assiette à pain, qui peut aussi servir d'assiette à dessert. Après, voilà, on vend sur le site internet les assiettes par lot de 4, parce qu'on estime que quand on se fait un service, en général, c'est 4 ou 8 ou 12. Ou plus. Et donc, 4 assiettes, 4 grandes assiettes, c'est 135 euros pour un produit artisanal, unique, fait à la main.
Ce qui est le prix d'une belle assiette de Limoges en France, qui n'est pas obligatoirement complètement toute finie à la main, bien loin de là.
Voilà.
Gwenaëlle Lénoré, vous êtes la vice-présidente d'Arc International. Vous connaissez Wessel ? Vous connaissez ?
Alors j'ai regardé sur le site, j'ai trouvé que c'était effectivement de très 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 beaux motifs, de couleurs très douces. Et je pense qu'on a vraiment cette tendance aujourd'hui de couleurs beaucoup plus un peu descendues. On est moins sur des coloris très très forts. Et nous, on a travaillé les assiettes en verre de couleur dont je vous parlais tout à l'heure. Mmh. On est exactement là-dessus, sur des tons sur tons, sur des choses extrêmement douces ou des légers effets marbrés. Effectivement, les consommateurs aujourd'hui recherchent des produits qui soient aussi assez intemporels. Et le côté très, voilà, très, très ultra coloré peut parfois aussi passer le mode plus vite. Donc, c'est très important d'arriver voilà,
à avoir. Ce qui est compliqué dans le secteur des arts de la table, c'est qu'il y a 20-30 ans, l'idée était on achète le service, et on le ressort à chaque occasion et on le garde. Ce qui est complètement fini, puisque typiquement, il n'y a plus de liste de mariage et tout ça. Donc, il faut trouver le mixte entre le beau produit, qu'on peut quand même acheter cher, mais qu'on va avoir envie peut-être de changer d'ici 3-4 ans.
Oui, et puis qu'on peut mixer aussi à d'autres. Ce qui est important aujourd'hui, c'est voilà, le mix and match qui fonctionne dans la mode. Aujourd'hui, l'art de la table, c'est devenu aussi. Voilà, un vrai effet de mode où on change de table, un peu comme on change de garde-robe.
Ça veut dire qu'on peut mettre des assiettes vaisselle avec des verres Saint-Louis.
Ah, mais il le faut, au contraire.
Voilà, non, mais c'est ça que vous voulez dire. Quand vous dites de mix and match, c'est ça que vous voulez dire.
Mais tout à fait. Et puis même de mélanger des marques de vaisselle entre elles, comme on peut mélanger ses bijoux. Enfin, voilà, c'est. L'idée, c'est vraiment de tout mélanger pour avoir des tables uniques à chaque fois.
Ce qui est intéressant aussi chez Wessel, c'est qu'il va peut-être falloir presque changer de nom, parce que vous voulez devenir quasiment une marque de décoration. Vous faites du linge de maison, vous faites des verres, si je ne dis pas d'annerie, vous faites aussi des bougies parfumées.
On fait des bougies parfumées.
Vous êtes en train de pas mal vous développer.
Oui, l'idée, c'est vraiment de toute façon de développer la marque. Donc, on tend aussi à devenir maison Wessel plutôt que Wessel. Mmh. Là, la prochaine étape, il y a un produit de décoration qui va sortir très bientôt.
Quel produit ?
Bon, je peux vous le dire, ça sort le mois prochain, ce sera des appliques. Mm-hmm. Des appliques. Et puis voilà, ça fait aussi écho à l'activité d'Ornella, mon associée, qui est architecte intérieur.
Vous travaillez aussi avec les restaurants ?
Alors oui, on a eu de jolies collaborations cette année, notamment, on est arrivé chez Mimosa, donc le nouveau restaurant de Jean-François Piège, au Musée de la Marine.
Au bout de 2 ans d'existence, chapeau.
Voilà.
Hein.
Oui, on était très, très, très. C'est
vous qui démarchez ou
comment? Non, là, ils sont venus vers nous.
Grâce au réseau ? Vous êtes fait connaître grâce au réseau ?
Notre marque s'est développée à 100% grâce à Instagram. Et après, voilà, le bouche à oreille, le réseau. Donc oui, pour Mimosa, on a réalisé une collection exclusive pour Jean-François Piège. Donc il a décidé d'avoir du motif. Nous, notre truc au début, c'est d'avoir le motif en plein dans l'assiette. Après, finalement, on a décidé de le mettre un peu sur le côté parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus facile... quand on mangeait, c'était plus agréable. Et Jean-François Piège nous a demandé de faire de la dentelle en contour. Et c'est ce qui nous a aussi inspiré pour la collection qu'on a lancée en été 2021.
Ça s'appelle Wessel, V-E-2-S-E-L. Merci Déborah Reiner d'être venue dans la France Bouge. Vous en êtes la cofondatrice. Merci à vous.
Et Gwenaëlle Lénoré, la vice-présidente d'Arc International, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous le voyons chaque jour. On est heureux avec Elisabeth Assayag de vous accueillir chaque jour dans notre bulle d'optimisme et encore aujourd'hui à parler des arts de la table avec Gwenaëlle Lénoré, qui est la vice-présidente d'Arc.
Et avec vous, Francis Gelb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Sabre Paris. Sabre Paris, c'est une marque de couverts. C'est bien simple, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Voilà, mes parents avaient une orfèvrerie. Donc très classique, et surtout des pièces de forme, c'est-à-dire des plateaux, des choix à champagne, des trucs dont on se sert tous les jours.
C'est pas mal pour les bouquets de fleurs de temps en temps.
Bah
quand on a plus de vase, un beau choix à champagne, c'est pas mal.
Exactement. Et moi, j'avais envie de couverts pour un quotidien plus sympa, parce qu'à l'époque, il y avait soit du très classique très cher, soit du fun, très bon marché, et il n'y avait rien au milieu.
Il n'y avait rien au milieu. Et alors, vous avez tenté de travailler avec vos parents.
J'ai tenté, j'ai fait une petite tentative de 6 ans.
Une tentative de 6 ans qui ne s'est pas hyper bien passée.
Ouais, on peut dire ça.
Et vous avez travaillé pour Habitat.
J'ai commencé à faire des collections de couverts en freelance. C'est une des entreprises que j'ai rencontrées, c'est Habitat. J'ai fait un modèle de couvert pour Habitat qui m'a demandé de le fabriquer et j'ai sauté sur l'occasion parce que j'en rêvais. De monter mon entreprise qui s'appelle Sabre. Et la raison du nom de Sabre, c'est parce que le modèle s'appelait Sabre au catalogue d'Habitat.
Alors décrivez-nous ce modèle. Il y a quoi, c'est quoi Sabre ?
Alors quand on a démarré avec Habitat, c'était un modèle en bois qui avait une forme de sabre. Avec les collections qu'on produisait pour Habitat, eh bien on a développé un nouveau procédé pour imprimer des manches. Et c'est les débuts de Sabre. C'est des manches imprimées en couleur et un motif emblématique qui est le Vichy, qu'on a toujours et qui se vend toujours aussi bien.
Ce qui est marrant, c'est que tout n'a pas été simple, je crois, dans votre aventure. Dans votre profession, il y a un salon qui est capital, qu'on appelle le salon Maison et Objets, qui se tient à Paris, logiquement, 2 fois par an, quand il n'y a pas trop de Covid. Je crois que votre premier salon, vous avez dit à nos équipes, en tout cas, ça a été un bide total, mais
Le premier salon, c'était Maison Objet en septembre 93. Et on est passé pas très loin de la bulle. Hein. Vraiment pas très loin. Bah, on a fait rien.
Rien, sauf
une commande en Turquie pour un grand magasin. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. J'étais sûr de mon coup. J'étais persuadé que, malgré tout, la collection était bonne et qu'il fallait qu'on continue. On est allé exposer à Francfort. Et à Francfort,
qui est l'autre grand pendant des salons de l'art de la table.
Voilà, c'est un salon qui s'appelle Ambiente. Et à Francfort, il y avait la queue sur le stand. Et dans la, ce que vous parlez tout à l'heure de chance, on a fait, je ne sais pas comment, la couverture d'un magazine japonais où ils ont croisé un couvert Vichy bleu avec un couvert Vichy rouge. Ça faisait le drapeau français. Et on a fait la couverture du magazine japonais. Et il y avait une queue d'asiatiques sur notre stand, principalement des japonais bien sûr, qui venaient commander ce qu'ils avaient vu sur le magazine. Donc... Et un client américain. Dans les Hamptons. Et comme on avait un goût très prononcé pour les États-Unis, bah on est allé faire le salon de New York la saison suivante. Et pareil, aux États-Unis, on a fait un carton.
Au point que c'est devenu votre premier marché, c'est ça ?
Aujourd'hui, c'est de loin notre premier marché.
Donc une fois que les Asiatiques, les Américains ont dit « c'est vraiment top », là, les Français se sont dit « ah, il y a peut-être un truc à faire, les grands magasins ».
Alors, je l'ai fait parallèlement. Les grands magasins avaient démarré... Avant, j'étais allé voir les acheteurs de tous les grands magasins français, donc Printemps, Galerie, Bon Marché, BHV, et les quatre avaient acheté.
Ah, quand même.
Les quatre avaient acheté avant les salons, mais par contre, les détaillants n'ont pas apprécié la collection. Et c'est assez intéressant parce qu'on est 29 ans plus tard et on a toujours une activité française qui est très faible. Aujourd'hui, la France, y compris nos boutiques, y compris les magasins, et y compris la vente en ligne, c'est 15% de notre chiffre.
Mais comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez que vous n'arrivez pas à convaincre votre propre pays ?
On arrive à convaincre les acteurs principaux, qui sont les grands magasins. Les grands magasins nous suivent, les détaillants. J'ai pas d'explication. On n'a jamais accroché dans le détail en France.
Vous n'avez pas accroché, mais là, il y a eu les confinements. Là, depuis deux ans, on est en crise sanitaire. Je crois que ça n'a pas arrêté pour vous.
Alors, on a...
Vous avez même... Travailler jour et nuit.
En 2020, quand le 17 mars, toutes les entreprises s'arrêtent, on a juste mis un petit panneau sur le site, on reste ouvert. Et en fait, je suis resté avec ma femme, mon fils et une salariée qui ne voulait absolument pas confiner chez elle. Mmh. Et on a bossé, on a vu les commandes arriver, ça rentrait.
Mais qui commandait pendant le confinement ?
Mais tous les gens qui étaient chez eux et qui n'avaient rien d'autre à faire et qui n'étaient pas très inquiets. Et c'était ce dont Gwenaël parlait tout à l'heure.
Mais ça continue chez vous encore aujourd'hui ?
Alors, en 2020, on a fait plus 15. Et en 2021, on a doublé la taille de l'entreprise. Et on voit là les
Et là, partout dans le monde, du coup, en tout cas aux États-Unis.
Parce que la France représentait 15%, un peu moins de 50% de notre chiffre, et là, est descendu à 15%. Donc la France, le détail France, a au contraire souffert pour nous. Et l'export a explosé.
Mais c'est quoi aujourd'hui le style sabre ?
Le style sabre, alors par rapport au démarrage, le style a quand même évolué. On était beaucoup plus couleur et le style a évolué avec l'âge des fondateurs, qui sont ma femme et moi. On avait 28 ans, on en a 57. On s'est un peu assagi, on est plus élégant, je pense. On est moins coloré, mais on est toujours différent. Ça, je crois que c'est ce qui est resté de Sabre. On a toujours des collections qui sont très distinctives. Il y a moins de couleurs qu'il y en avait au départ.
Vous continuez à dessiner des modèles ?
On continue toujours à dessiner des modèles.
Ça
on se doit d'être créatif. Pardon ?
Ça vous plaît toujours autant ?
Plus.
C'est vrai, c'est marrant ça.
Moi, je suis complètement passionné par cette entreprise qui s'est développée et qui s'est développée très rapidement, en plus, ces dernières années.
Combien de salariés, là, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est 45.
Parce que vous avez quelques boutiques en propre, hein,
alors,
c'est
on a trois boutiques en France, deux à Paris et une à Saint-Germain-en-Laye.
Gwenaël Lénoret, vous êtes la vice-présidente d'Arc, hein, vous aussi l'un des grands noms bien évidemment de ce secteur de l'art de la table. Vous êtes le plus grand verrier de France, sûrement, je disais tout à l'heure, l'un des plus gros au monde. On en est pas très très loin. On voit une fois de plus ce dynamisme du secteur français. Vous produisez beaucoup en France, puisque votre usine principale est en France, 4500 salariés à Arc. On dit traditionnellement que c'est même l'une des plus grandes usines de France, en tout cas dans votre secteur. Est-ce que le Made in France, ça veut dire quelque chose encore dans le secteur des arts de la table ? Parce que là, on a vu tout à l'heure au Portugal pour vaisselle. Mais est-ce que le Made in France, ça veut dire quelque chose ?
Et effectivement, le premier site industriel des Hauts-de-France, et on est le 7e site industriel français. Donc, en termes de taille, on est vraiment effectivement sur les tailles importantes. Et alors, pourquoi on propose aussi des produits très accessibles du quotidien ? Alors, à la différence de mes collègues, c'est vrai que nous sommes vraiment sur des produits très accessibles, diffusés en grande diffusion, que ce soit sur Internet, mais aussi des réseaux de distribution qu'on peut trouver, les grandes surfaces spécialisées, que ce soit mobilier, décoration, ameublement, mais également
gamme,
les grandes surfaces alimentaires. Donc on est vraiment sur tous ces secteurs. et sur la restauration. Et quand on parle de la restauration, avec Arcoroc, nous sommes vraiment sur une restauration accessible, ça peut être les brasseries, ça peut être les cantines dans les collectivités. Et puis sur Chef et Sommelier, on est effectivement un petit peu plus sur du moyen haut de gamme. Et le Made in France, ça a été en fait un enjeu majeur pour nous depuis plusieurs années. C'est vraiment une tendance qui s'est renforcée pendant le Covid. Alors au départ, le Made in France, il était surtout recherché par les étrangers. Et dans notre catégorie, c'est clair que le Made in France était extrêmement prisé par nos clients. La nouveauté de ces dernières années, c'est cette montée en puissance déjà du Made in France au niveau du marché français,
sentez, ça,
des consommateurs français.
Le fait que le Made in France en France, c'est quelque chose qui prend.
C'est une réalité. En fait, ça devient un critère d'achat pour certaines enseignes, pour certains clients. Et donc, nous, depuis 3 ans, nous avons obtenu la certification Origine France Garantie. Et on a vu que ça a eu un réel impact sur nos commandes, sur nos clients. Mais surtout, maintenant, d'un point de vue développement durable, consommer
justement,
local, acheter local, c'est plus important que jamais.
Donc, le Made in France, ça fait acheter, ça fait rêver. Et votre démarche environnementale aussi est prise en compte.
Absolument.
Donc, ça signifie que dans le processus de fabrication, vous y veillez tout particulièrement.
Tout à fait.
Donc, c'est-à-dire
au démarrage du Covid en 2020, on a lancé à ce moment-là un programme d'une ambition très forte autour du développement durable, avec une ambition climat à 2030 et un certain nombre d'initiatives. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on arrive à décarboner aujourd'hui l'industrie du verre et maîtrise, elle consomme de l'énergie. C'est un sujet aujourd'hui, le coût
et
de l'énergie.
Et puis vous, les fours, ils tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je crois.
Exactement.
À 1500 degrés. Hein.
Exactement. Mmh. Donc, ça, évidemment, ça consomme. Donc, on a entamé tout un travail pour réduire nos émissions de CO2 et pour réduire notre consommation d'énergie. Donc, on a un travail qui a été d'ailleurs soutenu par France Relance, par l'ADEME, pour pouvoir aujourd'hui décarboner progressivement notre industrie, avec déjà un premier impact sur un projet de baisse de 8%. Des émissions de CO2 et de consommation d'énergie.
Vous faites partie de ces entreprises qui sont très très touchées par la hausse des coûts de l'électricité.
Absolument.
Alors le gouvernement a pris des mesures. Malgré tout, c'est ça le plus gros choc pour vous, parce que le prix du gaz et de l'électricité, quand on fait tourner ses fours toute la journée,
exactement,
ça aurait pu être un cataclysme encore.
En fait, sur la France, on a donc sur 10 fours, on a 7 fours qui tournent au gaz. Donc le premier impact, ça a été d'abord le gaz. On a eu quand même des pics à plus 350% de coûts. Enfin, et rien que là, sur l'année 2022, on a un impact de 85 millions de coûts additionnels.
Et ça,
additionnels,
c'est les clients qui vont
qui
payer un peu. Vous arrivez à faire passer des hausses
gaz
de prix
et l'électricité.
C'est nous qui allons payer ?
On a fait... En partie, nous avons dû effectivement passer une augmentation tarifaire parce que nous n'avions pas le choix. C'était juste une question de survie. Donc, on a dû passer une hausse de 18%, ce que nous n'avions absolument jamais fait. Mais cette hausse ne compense pas tout. Donc, il y a bien entendu une partie que l'on travaille de notre côté en gain de productivité et en réduction de notre consommation d'énergie.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on l'entend depuis le début de l'émission, ça va bien, peut-être même comme jamais chez vous en ce moment. Pour autant, vous êtes une entreprise qui demande régulièrement des prêts, et notamment à l'État. Alors pourquoi donc ?
Alors,
quand ça va si bien ?
Alors effectivement, la première période, c'est la vague Covid. Donc la première vague Covid, où au démarrage, on a eu quand même une chute importante des ventes. Et nous sommes dans une industrie où effectivement, vous avez les fours qui tournent toute l'année, en continu. Donc, quand vous avez une chute de chiffre d'affaires au démarrage très impactante, bien entendu, c'était pas absorbable par une industrie comme la nôtre.
On a eu un
premier plan de refinancement. Et puis, en 2021, la crise en fait Covid a continué en début d'année. Fin 2020, ça a continué également. Et donc, on a dû, là aussi, à un moment donné, repartir. Et pour cela, nous avions besoin d'un prêt. Alors, nous avons eu des prêts d'État que nous avons toujours remboursés. Donc, celui-ci sera remboursé comme les autres. Nous avons également notre actionnaire qui a refinancé à hauteur de 16 millions d'euros pour pouvoir justement repartir et pouvoir passer ce cap de cette crise Covid et de l'augmentation des coûts de l'énergie. Je précise que toute cette augmentation, nous n'avons pas pu la passer dans les prix. Et donc ça fait un gap qu'il a bien fallu combler.
Francis Gelb, vous êtes le cofondateur de Sabre Paris. On l'a entendu, ça va hyper bien. C'est quoi la suite ? C'est quoi vos projets maintenant ?
Ah, le projet, je crois que c'est le challenge pour 2022, c'est de passer de gros artisans à petit industriel.
Elle va être où la différence ?
L'équipement. L'investissement, l'équipement et le middle management, je crois.
Alors aujourd'hui, face à la demande, finalement.
Pour faire face à la demande. Aujourd'hui, on continue à se développer. Je pense qu'on fera une année au minimum à plus 20, parce que les perspectives sont vraiment excellentes. On a ouvert une boutique à Séoul il y a 4 jours. Et il y a plein de projets dans les tuyaux. Et vraiment, pour nous, le challenge 2022, ça va être de basculer d'un gros artisan à un petit industriel.
Vous avez entendu ça ? C'est une marque de couvert. Basculer de gros artisans à petit industriel.
Vous reviendrez nous en parler.
Bravo
avec
à vous,
plaisir.
Francis Gelb. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Sabre Paris. Merci d'être venu nous raconter votre belle histoire dans
la France.
Merci
de m'avoir invité.
Et c'est pas fini encore pour vous, Gwenaëlle Lenoré. On vous garde avec nous. Vous êtes la vice-présidente d'Arc. Vous êtes notre grande témoin jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On est vraiment très heureux chaque jour de mettre en avant tous ces entrepreneurs qui viennent nous apporter tellement d'optimisme et qui nous montrent quand on veut, semble-t-il, que l'on peut en France. Et je suis sûr que là encore, avec les trophées de l'avenir européen, la France bouge, on va avoir une belle pépite. Chaque jour, ils tentent de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Gwenaëlle Lénorec, qui est la vice-présidente d'Arc. Et puis, bien évidemment, notre fée à nous, elle a toutes les idées déjà bien en tête, Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI.
Et aujourd'hui, une toute jeune entreprise, puisqu'elle est née, figurez-vous, le 10 décembre 2021. Elle a donc un peu plus d'un mois seulement. Bonjour Alizée de Lemazure.
Bonjour.
Vous avez 27 ans, vous êtes parisienne et vous êtes la cofondatrice de Belaya. Belaya, ce sont des bougies parfumées. Je peux vous dire qu'elles sentent très bon, ça embaume le studio.
Ça en avait amené un paquet, on peut les voir sur europain.fr.
Elles sont absolument délicieuses. Elles sont éco-responsables, elles sont rechargeables. Et on peut le dire, Alizée, le Covid a été le déclic pour vous lancer. Bien écoutez, vous allez nous raconter la suite de l'histoire de Belaya. C'est à vous, vous avez une minute.
Avec mon associé, nous sommes des passionnés de bougies. C'est simple, chez nous, il y a forcément une bougie qui brûle. Nous faisons partie de cette génération qui est concernée par l'environnement. Alors à chaque bougie finie, nous conservions les pots afin de les réutiliser. Jusqu'au jour où on ne savait plus vraiment quoi en faire. Alors on a décidé de créer Belaya, une marque de bougies parfumées et responsables made in France. Le concept est très simple, un seul pot en verre pour une infinité de possibilités. Nous proposons deux tailles de bougies et six parfums. Nos bougies sont composées de cire 100% végétale, choisie notamment pour sa durée de brûlage rallongée. La solution pour limiter les déchets inutiles, c'est nos recharges de cire. Elles vous permettent de réutiliser vos bougies à l'infini et pour près de deux fois moins cher. D'autres bougies 70 heures est vendue 39 € et sa recharge 25 €. Enfin, nous avons développé 5 fourreaux réversibles qui permettent d'habiller votre bougie en quelques secondes et de changer son design comme vous le souhaitez. Votre bougie devient un accessoire de décoration durable et éco-responsable. Et
hyper clair.
Bah oui, puis les fourreaux, c'est vachement bien parce qu'avec les assiettes de couleurs sur la table, si on veut mettre une bougie.
Le fourreau, c'est comme une petite robe. Hein,
comme une coque de téléphone.
Comme une coque
fait.
De téléphone, petite robe. Moi, je pense une petite robe. Comme une coque de téléphone, exactement.
Ça habille la bougie.
Bah bravo en tout cas, Alizée.
Elle a donné les prix, Alizée. Hein.
Ah bah oui, c'est pour ça que j'étais en train d'essayer le fourreau.
Bonjour Nathalie Carré, on vous entend
rire. Bonjour Elisabeth, bonjour Alizée, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
C'est joli la petite robe de bougie, moi je trouve.
C'est mignon comme petite expression. Vous, Nathalie Carré, vous avez étudié ce projet. Alors là, on peut vraiment dire que c'est un projet hein, parce que c'est né en décembre 2021. Quelles sont les forces et les points à améliorer selon vous, Nathalie, pour Belaya?
Et ben, en fait, ça fait un peu bougie en kit. En fait, c'est vraiment une super idée puisqu'on choisit l'odeur, la couleur du fourreau. Quand la bougie finit, on change et on peut même donc retourner le fourreau. Donc d'abord, c'est malin pour la gestion des stocks, mais aussi pour la planète. Et puis effectivement, bravo pour l'utilisation de cire végétale, parce qu'en fait, chez nous, on brûle des bougies pour un moment de détente et de bien-être. En fait, on respire du pétrole, donc c'est pas l'eau. Là, c'est colza et soja. Alors, quelques points améliorés, une suggestion. Déjà, point amélioré, alors dans la partie concept, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre s'il fallait commencer par acheter la bougie à 39 €, puis les recharges, ou si en fait, il y avait deux options. Acheter la bougie à 39 € qui suffit à lui-même, on peut ajouter un fourreau, ou alors c'est la recharge et le fourreau. Ça, j'ai pas très bien compris. Et je me suis imaginé en fait mettre une recharge dans le pot, sauf que souvent on finit pas la bougie en fait complètement. Et donc du coup je me suis dit mais comment on fait? Enfin voilà, donc il manque un peu d'explication sur cette histoire de recharge. Puis une suggestion, mettez plus en avant les informations sur la composition des bougies, des fabricants, ça crée du contenu pour le référencement naturel. Puis expliquez le prix. Votre combo bougie fourreau, ça fait 54 €. Vous avez des concurrents qui proposent des bougies écolo à 19 €, d'autres sont au même prix que vous, sauf que vous, une fois qu'on a fait l'investissement, la recharge est à petit prix. Donc au final, vous avez la solution la moins chère, mais il faut vraiment le dire plus que ça. Puis il y a un sujet de distribution. Mais pour choisir les bons partenaires, vous devez trouver un positionnement différent que vous pourriez incarner dans un slogan, parce que la bougie écologique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Alors vous avez deux angles possibles, notamment la bougie immortelle, comme vous le dites sur votre site, ou peut-être aller plus loin et aller vers la décoration deux en un. Le fourreau de bougie réversible, le vase avec un fourreau assorti à celui des bougies, le pied de lampe, etc. Et faire une espèce d'univers de la déco deux en un avec la bougie et tout le reste. Faites ce que vous voulez à vous de choisir, mais trouvez un angle différenciant pour être vu parmi tous les autres. Et y en a.
Moi, j'aime bien la bougie immortelle, ce que vous dit Nathalie.
Oui.
Et c'est vrai qu'elle a posé plein de questions que je me posais, parce que moi je suis le spécialiste pour jamais finir complètement mes bougies, parce que de toute façon on se brûle quand on arrive au fond pour les allumer. Comment ça se passe pour l'enlever, pour la recharger,
En fait on explique tout sur notre site internet, du coup, où une fois que la bougie est terminée, Il suffit de faire bouillir de l'eau, de mettre de l'eau bouillante dans le verre, ce qui fait que l'eau bouillante va faire fondre la cire. Et en fait, la cire va remonter à la surface. Tous les résidus sur les côtés du verre vont s'enlever. Vous allez juste enlever les résidus, passer un petit chiffon autour. Voilà.
Et
votre verre
remet la nouvelle recharge.
Exactement. Impec. Et on remet la recharge très facilement.
Faites ça, vous, Elisabeth ?
Pas du tout, mais je prends le... Parce que j'ai peut-être des tonnes de fonds de bougies.
Vous adorez les bougies, en plus.
J'adore les bougies. Alizé, par rapport à ce que vous disiez, Nathalie Carré, donc il y a un vrai enjeu, c'est celui de la différenciation. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous entendez et sur lequel vous travaillez déjà ?
Oui, complètement. On sait que le marché de la bougie, il y a énormément d'offres aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, on est arrivé avec un concept qu'on trouve assez complet, puisqu'on propose une bougie, une solution pour limiter les déchets avec la recharge, et également une solution pour pouvoir utiliser sa bougie toute sa vie, on va dire, et ne pas s'enlacer, puisqu'on a des fourreaux qui permettent vraiment de décorer l'intérieur. Et comme l'a dit Nathalie, on utilise ce terme de « notre bougie se renouvelle, elle est éternelle ».
Elle est éternelle. On aime bien ce côté bougie éternelle, ça nous plaît.
Bravo. Après, en tout cas pour Belaya.
Ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici quelques semaines, on va lancer un concept d'abonnement, en fait, pour que nos clients puissent recevoir
les fourreaux.
Et les recharges.
Et les recharges. Merci à vous, Alizé de Lemazure. Vous êtes la cofondatrice de Belaya, des bougies parfumées, éco-responsables et surtout rechargeables. Merci à vous d'être venue dans La France Bouge.
Et Nathalie Carré, on vous dit à demain si vous voulez venir présenter votre jolie entreprise. Bah, c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, ce1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats, tous de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1. La France Bouge.
Nous sommes toujours avec Gwenaëlle Lénoré. Vous êtes la vice-présidente d'Arc. Vous restez avec nous pour la suite et la fin. Votre émission.
On recrute plus de 400 personnes pour couvrir l'ensemble de notre activité classique.
Aujourd'hui, on recherche énormément de talents.
On cherche sur toute la France 3000 nouveaux collaborateurs dans notre organisation.
La France bouge.
Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et c'est vrai tout ça, hein. Tous ces témoignages sont réels.
À chaque fois on l'écoute et on est presque pris par notre propre jingle puisqu'on se dit c'est pas possible qu'il y ait tant d'offres d'emploi, mais si, et on en découvre chaque semaine à La France Bouge et encore aujourd'hui avec Gwenaëlle Lénoré, la vice-présidente d'Arc.
Et aujourd'hui on a des postes dans la téléphonie. Bonjour Charles Bocquillon.
Bonjour.
Vous êtes le DRH d'Unic, c'est un opérateur de télécommunications et d'outils de collaboration à destination des entreprises. Vous existez depuis 2004, vous êtes basé au Mans, à Paris ainsi qu'à Nantes. Plus de 140 salariés y travaillent. Et là, si vous êtes avec nous dans La France Bouge, c'est parce que vous recherchez 50 personnes en CDI. Vous recherchez quel profil précisément ?
Alors effectivement, on cherche 50 personnes en CDI en 2022. Là, on a 20 postes ouverts rien qu'au premier trimestre pour couvrir notre croissance qui est de l'ordre de 30% chaque année. Alors on a une dizaine de postes différents ouverts, mais plus particulièrement des développeurs back-end Python, comme on dit chez nous.
Oula, ça veut dire quoi ça, back-end Python ?
Alors c'est des gens, voilà, je vais vous expliquer, c'est des gens qui travaillent sur les briques logicielles en fait de nos systèmes d'information. C'est des gens qui seraient amenés à travailler d'ailleurs dans un environnement technique ultra sympa, avec les dernières technologies disponibles, avec vraiment une équipe de passionnés. C'est une compétence qui est rare sur le marché, donc on a effectivement un petit peu de mal à trouver autant de développeurs qu'on voudrait. Donc on lance cet appel sur votre antenne pour voilà.
Et vous avez dit à notre équipe pour préparer cette interview, on se concentre de moins en moins sur le pédigré, on veut être prêt à regarder des profils atypiques, on veut laisser la chance à chacun. Mais quand on fait du Black and Python, là, on n'arrive pas comme ça par hasard quand même.
Alors, oui et non, parce qu'effectivement, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va s'attacher aux compétences des gens. On a certains de nos développeurs et certains de nos salariés qui sont en reconversion professionnelle, qui ont eu d'autres vies avant, qui ont fait des formations professionnelles et qui postulent chez nous. Et on étudie leur candidature avec intérêt, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est des compétences, c'est des soft skills, comme on dit maintenant.
Ah, c'est très à la mode,
un savoir-être,
c'est la personnalité, des personnalités.
Mais voilà, c'est la personnalité, c'est comment est-ce que vous intégrez dans l'équipe dans laquelle vous travaillez, c'est le bon esprit en fait du salarié et du collaborateur en fait, et c'est l'équipier sur qui vous pouvez vous appuyer, qui va pas vous laisser tomber. Et tout ça, c'est des compétences qu'on peut développer. On peut avoir fait du pain dans une boulangerie, se reconvertir en développeur et être un super développeur grâce à cette ancienne expérience.
D'ailleurs, vous avez dit, je préfère des gens avec de la volonté, des gens qui ont faim et qui ont envie.
Exactement.
Hein, c'est exactement pour résumer
ce qu'on cherche avant tout.
Le profil que
vous cherchez
que vous
partout en France, parce qu'Elisabeth le disait, vous êtes basée au Mans, à Paris et à Nantes. C'est partout en France, il y a du télétravail possible.
Alors, vous avez raison de le noter. Bon, on cherche prioritairement dans ces trois zones-là, hein, on va pas se mentir. Mais effectivement, on est prêt, sur certains profils et sur certaines compétences, à aller chercher des gens qui seraient effectivement, comme on appelle aujourd'hui, en full remote, c'est-à-dire qui seraient en full télétravail.
Donc on fait du black and pizza en full remote.
On a tout compris.
C'est possible, voilà. Exactement. Oui, alors, désolé pour les anglicismes, parce qu'ils sont assez communs.
C'était juste pour la blague.
C'était une petite blague. Gwenaëlle Lénoré, vous êtes la vice-présidente d'Arc. Vous recrutez chez RAC ? Ah, chez RAC. Vous recrutez chez Arc ?
Absolument. Donc en fait, cette année, nous avons un programme de recrutement de 450 personnes.
450 personnes ?
Tout
donc,
à fait.
À Arc ?
À Arc, dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, à côté de Saint-Omer. Et effectivement, donc en partie pour compenser des départs à la retraite, puisque nous avons des vagues de départs à la retraite importantes, et également pour pérenniser des emplois qui étaient jusqu'ici en intérim.
Et donc vous aussi, un télétravail possible, hein, parce que vous-même, hein, vous êtes la vice-présidente, mais vous êtes aussi en télétravail, en partie, et ça est bien avant la crise sanitaire.
Alors ça a démarré, mais effectivement, le contexte Covid a favorisé le télétravail. Et au-delà de ça, on a aussi toute une démarche au niveau des jeunes. Donc on a 200 apprentis alternants qui nous permettent aussi de faire la formation, de trouver les nouveaux talents et derrière de les fidéliser.
Merci à vous. Merci Charles Bocquillon, DRH d'UNIC, hein, qui recrute 50 personnes en 2022. Merci à vous, à notre grand témoin du jour, Gwenaëlle Lénoré. Vous êtes la vice-présidente d'Arc.
Merci
d'avoir été avec nous dans La France Bouge. Nous, Emmanuel, on se retrouve demain, mardi. Nous allons parler de quoi demain ?
Demain, on va sur les bancs de l'université, voir comment ça se passe en cette rentrée dans l'une des plus grandes universités de France, l'université Paris-Panthéon-Assas.
À demain, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.
Europe 1.